l'écoute de Radio France Internationale, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Nemo Ampis.
Et cette enquête ouverte en République démocratique du Congo après la mort d'un policier. Il avait été agressé la semaine dernière par des membres du cortège de la première ministre Judith Suminwa. Depuis, une vidéo circule et est devenue virale sur les réseaux sociaux. La chef du gouvernement a réagi hier soir. Reportage ensuite à Boya dans la région du sud-ouest au Cameroun où les habitants pour enterrer leurs défunts sont contraints de payer une taxe aux séparatistes. Le carburant au niveau zéro ou presque à Bangui, les pompes à essence se vident, les files des véhicules se rallongent devant les stations-service et pendant ce temps, le coût de la vie quotidienne augmente. L'Ouganda, elle entend bien renforcer sa souveraineté énergétique. Les autorités ont annoncé la signature d'un accord avec un investisseur émirati pour la construction d'une usine capable de sortir 60 000 barils par jour. Et puis c'est aujourd'hui au Sénégal que s'ouvre à l'Assemblée nationale le débat sur la révision de la loi d'amnistie. Pour rappel, elle avait été adoptée l'an dernier et annuler les poursuites pour tous les crimes commis entre février 2021 et 2024 lors des manifestations de l'opposition. En RDC, donc, c'est une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. La mort d'un policier de la circulation, le brigadier Fiston Kabeya, brutalement agressé il y a une semaine par l'escorte de la première ministre Judith Suminwa, puis mort dimanche, c'était deux jours après avoir été sorti d'un parquet militaire de Kinshasa pour des soins à l'hôpital. Alors le policier est-il directement mort à la suite des coups reçus mardi ou après d'autres violences? Les questions restent nombreuses et les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Pascal Moulégois.
La scène est relatée par un policier témoin de l'événement. La vidéo est devenue virale. Mardi dernier, le bouchon assaille le boulevard Mondjiba. Le cortège de la première ministre prend les contresens interdits par les codes de la route. Ces jours-là, les policiers de la route frayent les chemins pour le cortège après une altercation verbale entre eux et les membres du cortège de la chef du gouvernement. Quelques minutes après, raconte son collègue, une partie du cortège revient, embarque les brigadiers Kabeya Fiston, lui roue des coups, puis l'amène. La police, sans plus de détails, a confirmé les décès dans un communiqué. Le ministre de la Justice s'en est mêlé. Le procureur de l'armée a été instruit d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs. La mort de ces policiers a provoqué un tollé, certains exigeant des sanctions contre la chef du gouvernement. D'autres ont rappelé les tensions sur les routes de Kinshasa entre les policiers et la garde rapprochée des officiels récidivistes. Les cas de violence sont en tout cas légion, mais ne conduisent pas souvent à la mort, nous a déclaré un des hauts dirigeants de la police. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Et tard dans la soirée, hier soir, la première ministre Judith Suminwa a exprimé son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays. Elle rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. Au Cameroun, dans les territoires où les groupes armés sont actifs, les habitants sont contraints à certaines restrictions, certaines taxes notamment, quand vient le moment d'enterrer les défunts. Un fardeau supplémentaire dans les familles et c'est tant bien que mal de s'acquitter pour respecter les traditions. C'est une situation à laquelle sont confrontés les habitants des deux régions anglophones. Reportage d'Emily Tulé à Boya, capitale de la région du Sud-Ouest.
Sur son téléphone, Wally écoute le message d'un proche. Il organise les funérailles de son grand frère, Divine, mais pour ramener le corps au village, il faut négocier avec les séparatistes.
Quand ils savent que vous venez de la ville, ils prélèvent un certain montant avant de vous laisser entrer. Ils le font même aux gens du gouvernement, de l'administration. La nuit, avant l'arrivée du corps, il faut envoyer quelqu'un donner l'argent, le riz ou les vaches aux boys. Là, vos invités, votre famille, peuvent venir pour les funérailles.
Pour enterrer sa mère l'an passé, la famille de Wally a dû payer 300 000 francs. Pour son frère, le montant et la date ne sont pas encore fixés.
Pourquoi devrais-je payer pour ramener mon frère chez lui? Est-ce normal? C'est juste que je ne peux pas affronter ces gens. Je me sens frustré et impuissant.
Mais enterrer son frère dans un cimetière à Boya lui paraît impossible.
C'est ainsi que nos parents ont fait. Nous devons faire pareil. Quand le corps arrive près de la maison, on se met à appeler le défunt en lui disant « Viens, viens, nous rentrons. Viens, tes proches t'attendent. »
To your own place, your people are waiting for you. Come back. So we believe that.
Nous croyons que l'âme de la personne nous entend et nous suit, et qu'elle pourra reposer en paix.
And everything is going to be peaceful.
Sans la paix dans notre pays, pas de paix dans nos cœurs et nos familles, conclut avec émotion Wally en regardant une photo de son frère. Amélie Tulé de retour de Boya, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, Hervé Patrick Opiang, ancien ministre gabonais des mines, a saisi la Commission africaine des droits de l'homme pour faire cesser, disent ses avocats, les violentes attaques de l'État contre lui. Il est recherché dans son pays depuis novembre dernier pour des soupçons d'inceste sur sa fille. Ses proches le disent victime de harcèlement politique depuis qu'il a choisi de militer pour le non à l'époque du référendum sur la nouvelle constitution. Il est aujourd'hui quasiment impossible de trouver du carburant à la pompe à Bangui. Voilà 4 jours que la capitale centrafricaine est confrontée à une pénurie. Certaines stations-service sont opérationnelles, mais pour quelques heures seulement. Les autres, la plupart en fait, restent fermées à cause d'une quantité insuffisante de carburant. Dans la ville, les conséquences sur les activités socio-économiques se font déjà ressentir, comme l'a remarqué Rolf-Steph Domialeu.
À la station Tradex du centre-ville, des scènes de bousculade. Fatigué après des heures de lutte, Alphonse se repose dans sa voiture.
Pour en avoir, il faut quitter au moins à partir de 3h, minuit. Pour en trouver, c'est un peu difficile. Il faut négocier avec les pompistes qui sont sur les pompes pour leur donner quelque chose.
Au nord de Bangui, des files se dressent devant la station totale de PK12, mais aucune goutte de carburant ne sort des pompes. Michel est conducteur de mototaxi.
Vous voyez des tas de bidons, les motos, les voitures, et des tas de bidons, c'est pour les revendeurs. Si tu quittes la maison à 3h, tu peux avoir le carburant à 9h. Arrivé à 9h, 10h, on va dire non, le carburant est fini, on ne peut plus continuer la vente, il faut revenir demain, tout ça.
Depuis 4 jour, le quotidien des usagers comme Sylvain se résume pratiquement à faire la chasse à la perle rare. Dépassé, il est obligé de se ravitailler chez les revendeurs.
Nous sommes depuis d'ici environ 3h, mais on n'a pas trouvé les carburants. Au bord de la route, nous avons acheté en 1400, en 1500. C'est trop fort.
Pourtant, à la station, le litre coûte 1100 francs CFA. Cette crise n'est pas sans conséquence, selon Erika, qui déplore l'augmentation des tarifs de transport.
Il n'a pas bien carburant.
Ce problème de carburant fait doubler le prix des transports en commun. C'est difficile de se déplacer dans la capitale à l'heure actuelle.
Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore réagi. Rolf-Steph Domialeu, Bangui, RFI.
Les ambitions pétrolières ougandaises remises au goût du jour. Samedi dernier, Kampala a signé un accord avec l'investisseur émirati MBM Investments pour la construction d'une usine potentiellement productrice de 60 000 barils par jour. Elle serait située à Hoima, dans l'ouest du pays. Son objectif, transformer le pétrole brut localement, ce qui, selon les autorités, bénéficiera à l'économie, créera de l'emploi et renforcera la souveraineté énergétique du pays. Problème sur le terrain. Des voix s'élèvent et craignent un scénario qu'ils ont déjà vécu. Christina Okello.
C'est un virage stratégique, a annoncé le président Yoweri Museveni sur son compte X. Désormais, l'Ouganda exportera des produits raffinés au lieu de les importer. À titre de comparaison, ce projet reste modeste face à d'autres initiatives pétrolières en Afrique, comme la méga raffinerie de Dangote au Nigeria. Mais pour Kampala, l'enjeu est ailleurs, reprendre la main sur sa filière énergétique. Problème, l'État ougandais ne finance que 40% du projet, le reste appartient à l'investisseur émirati. Et sur le terrain, le scepticisme domine. Diana Naburuma, de l'Institut africain pour la gouvernance énergétique.
J'ai entendu tellement d'annonces à propos de la construction d'une raffinerie et puis après les investisseurs se retirent. Parfois je me dis que tout cela sert à des fins électorales. On a des élections générales prévues au début de l'année prochaine et brandir la promesse d'une raffinerie et de création d'emplois, eh bien c'est toujours bon pour faire campagne.
Depuis 15 ans, les accords s'enchaînent et tombent à l'eau. La faute, selon les experts, un manque de rentabilité. Difficile d'exploiter à la fois une raffinerie et l'oléoduc ICOP, préféré par Total Energy. Comme ICOP, la raffinerie serait construite à Hoima, où 7000 personnes ont été déplacées en 2009 pour un précédent projet jamais abouti.
Les habitants ont été déplacés de leurs terres fertiles et relogés dans un village du district de Hoima, sur des terres beaucoup moins fertiles et sans accès suffisant à l'eau.
Selon la compagnie pétrolière publique ougandaise, UNOC, la construction de la raffinerie pourrait démarrer d'ici 4 ans.
Christina Okello. En Guinée, on connaît la date du référendum sur une nouvelle constitution. Ce sera le dimanche 21 septembre prochain, échéance fixée par la junte au pouvoir et annoncée ce mardi à la télévision publique. Les militaires qui voient cette consultation comme une première étape devant aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel. La junte nigérienne, elle, a décidé de libérer une cinquantaine de personnes qui bénéficient d'une remise en liberté conformément aux recommandations des Assises nationales pour la refondation tenue en février, indique ce mardi le secrétariat général du gouvernement. Parmi ces personnes, d'anciens ministres du régime renversé en 2023, on peut citer notamment Mahamane Sani Issoufou, fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou, ou encore Kalamoutari, Ahmed Djidoud et Ibrahim Yakoubou, tous trois anciens ministres, d'autres responsables politiques, un ancien ambassadeur, un journaliste ou encore des militaires sont également concernés par ces remises en liberté. Pour l'heure, les libérations ne sont pas encore effective. Et puis la fin de ce journal. Au Sénégal, où débute ce mercredi l'examen du projet de loi de révision de la loi d'amnistie controversée, puisqu'elle annule toutes les poursuites pour les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 pendant les manifestations de l'opposition. Il y a un an, alors arrivé au pouvoir, les nouvelles autorités avaient promis d'abroger cette loi. Finalement, elle compte l'amender, ce qui à Dakar divise de nouveau. Dakar où l'on retrouve Léa Lisa Vesteroff.
Si le projet de loi du parti au pouvoir, le PASTEF, est adopté, seront exclus de l'amnistie les faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, les cas de torture ou encore les traitements inhumains, cruels ou dégradants, et ce même s'ils ont eu lieu au cours de manifestations entre février 2021 et 2024. Pour les défenseurs du projet de loi, cet ajout va permettre aux familles des 65 personnes tuées pendant les manifestations, dont 51 par balle, d'ouvrir une procédure judiciaire et des enquêtes pour identifier les responsables de ces morts. Permettre aussi à toutes les victimes d'obtenir réparation et de ce fait éviter l'impunité. Mais en face, 20 organisations de la société civile et des membres de l'opposition s'inquiètent d'un deux poids deux mesures avec un projet de loi qui dispense de poursuite tous ceux qui ont commis des dégâts matériels et que cette loi d'interprétation ne protège au final les militants du PASTEF, le parti aujourd'hui au pouvoir. Enfin, certains continuent de réclamer l'abrogation pure et simple de la loi. Pour le député du PASTEF Amadou Ba, cette option n'a pas pu être retenue car n'étant pas rétroactive, l'abrogation ne permettait pas de remettre en cause l'amnistie accordée il y a un an. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
À Dakar, il est 7h42, la suite et la fin d'RFI Matin avec Marion Casanova.